Bonjour, il a gagné son pari, Boris Johnson, à l'issue des législatives anticipées d'hier. Le Parti conservateur a désormais la majorité absolue à Londres, ce qui donne au Premier ministre toute latitude pour décréter le Brexit à la date prévue du 31 janvier. C'est une victoire historique, le plus gros succès des Tories depuis Margaret Thatcher et le pire résultat du Labour, les travaillistes, depuis les années 50. Bojo a maintenant les mains libres, ce qui ne veut pas dire que tout est réglé. Le pays sait maintenant où il va, mais il reste à discuter de ce que seront les futures relations commerciales avec l'Union, ce qui peut prendre des mois, des années. Angélique Bouin nous appelle de Bruxelles, où sont réunis ce vendredi les chefs d'État et de gouvernement des 27.
Ce n'est qu'une première étape de franchie. Le 31 janvier, si cela se confirme, on entrera dans une phase de transition d'un an renouvelable, au cours de laquelle rien ou presque ne change pour les Britanniques et les Européens, mais à l'issue de laquelle il faudra avoir trouvé un accord sur la façon dont on commercera à l'avenir avec nos voisins. Le plus dur en quelque sorte reste à faire, comme l'a souligné ce matin à son arrivée le nouveau président du Conseil européen, le Belge Charles Michel.
Et je souhaite que l'on puisse démarrer dans la sérénité, tranquillement, mais avec une grande détermination, la négociation sur la phase suivante. Il sera important de veiller aux intérêts du marché intérieur, à l'intégrité du marché intérieur. Il sera aussi important de conclure un accord qui permet d'avoir une relation étroite à l'avenir avec l'Union européenne.
Une relation avec des règles du jeu équitables pour éviter que le Royaume-Uni ne devienne un concurrent économique. Pas question pour les Européens d'ouvrir leur marché si Londres ne respecte pas, par exemple, les normes sociales, environnementales ou fiscales de l'Union, une négociation autrement plus complexe que celle qui avait déjà fait s'arracher les cheveux de l'équipe de Michel Barnier et des 27 depuis 2 ans. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
En Algérie, Abdelmadjid Tebboune, élu président, l'ex-premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, est déclaré vainqueur à l'issue du premier tour avec plus de 58% des suffrages. Mais c'est surtout l'abstention qui a gagné, avec 60% des inscrits qui ne sont pas allés voter. Et nombreux sont les Algériens qui devraient manifester encore aujourd'hui. Mathilde Dehimi à Alger.
C'est un peu un retour en grâce pour Abdelmadjid Tebboune, que certains pensaient lâché par le pouvoir dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, avec notamment l'arrestation d'un de ses proches. Abdelmadjid Tebboune est un pur produit du système dénoncé par les manifestants depuis près de 10 mois. Il a été préfet de plusieurs provinces, plusieurs fois ministre, éphémère premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, limogé brutalement 3 mois plus tard dans une guerre de clans. Ce qui n'a pas empêché cet homme de 74 ans de soutenir l'ancien raïs pour un 5e mandat. La route était tracée, même si le parti historique du FLN avait finalement décidé de soutenir un autre candidat au tout dernier moment. Il est donc officiellement élu avec 58% des suffrages exprimés, alors que 6 électeurs sur 10 se sont abstenus hier. Il n'y aura donc pas de second tour, ce qui aurait été une première. Le profil très apparatchik d'Abdelmadjid Tebboune ne va pas plaire du tout aux manifestants du mouvement pacifiste, le IRAK, qui demande un changement complet du système. De nouvelles grandes manifestations sont prévues comme chaque vendredi depuis 43 semaines dans les principales villes du pays. Alger, Arthur Gerbeau, Mathilde Dehimi, France Inter.
En Allemagne, une explosion ce matin dans un immeuble de Blankenburg, à l'est du pays. Bilan 1 mort, 25 blessés. De nombreux habitants du quartier ont été évacués sans plus de précision pour l'instant. À Paris, un individu qui menaçait des policiers avec une arme blanche, on parle d'une scie au bout pointu, a été tué ce matin dans le quartier de la Défense. Face à son attitude agressive, les policiers ont dû faire feu. On ignore encore les motivations de leur agresseur. Aucun élément terroriste n'est pour l'instant caractérisé. Au 9e jour de grève contre la réforme des retraite, la situation reste inchangée dans les transports, en région parisienne principalement, où la plupart des lignes de métro sont fermées, la moitié des bus seulement en circulation, les RER A et B réduits des 2/3. Sur le réseau SNCF, comptait toujours 1/4 des TGV sur le territoire, 4 TER sur 10, parfois remplacés par des bus. Une situation qui pourrait perdurer jusqu'à Noël si rien ne bouge. Les discussions ont repris dans les ministères et se poursuivront la semaine prochaine, notamment à Matignon. Dès ce matin, les syndicats de l'enseignement ont été reçus par le ministre Jean-Michel Blanquer. On a vu également que les policiers avaient suspendu leur participation au mouvement de grève après avoir reçu des garanties du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, notamment le maintien du départ en retraite anticipée pour l'ensemble du personnel. Bref, Yael Gauze, le gouvernement s'applique à déminer la situation autant que possible pour gagner en quelque sorte la bataille de l'opinion.
Oui Yves, c'est une stratégie à plusieurs niveaux. D'abord le tango Philippe Berger, l'un est ferme mais mais pas fermé, et l'autre s'oppose tout en restant constructif. Y a-t-il encore un deal possible? En tout cas, les syndicats réformistes sont prêts à rediscuter avec Matignon, à Matignon, quand, avant ou après la mobilisation de mardi, c'est pas tranché. Ensuite, vous avez le tango de Philippe avec les fonctionnaires. Hospitaliers, enseignants, policiers, on traite en urgence chaque métier pour tuer dans l'œuf toute convergence. Ce soir, le Premier ministre est avec Jean-Michel Blanquer sur le terrain à Nancy pour échanger avec des profs dans un gymnase. Là où ça devient sacrément rock'n'roll, c'est avec l'intersyndicale CGT-FO Solidaire qui, elle, demande le retrait pur et simple de la réforme. Là, pas de tango possible, mais chacun guette le faux pas de l'autre. L'erreur tactique. Laurent Brun, CGT cheminot, menace de bloquer à Noël et au-delà. Ça va faire monter le stress et faire basculer l'opinion, veut croire un dirigeant de La République En Marche que j'ai eu au téléphone. Si je résume, le pari, c'est de reparler aux réformistes, de gagner encore du soutien dans l'opinion et de cornériser les cheminots ou conducteurs grévistes qui s'isoleraient en ne respectant pas la trêve de Noël. Tout ça, c'est théorique, car au milieu du champ de bataille, les Français sont partagés. 50-50, régime unique ou réforme inique, grève par procuration ou trêve par exaspération, pile ou face, la pièce est encore en l'air.
Alors tout cela suffira-t-il à désamorcer le conflit d'ici Noël? En attendant, c'est la cohue dans les transports tous les matins et tous les soirs aux heures de pointe. Illustration ce matin encore, Gare du Nord à Paris, un reportage de Théo Hetch.
La scène se répète chaque matin. Des bousculades pour accéder au quai du RER B. La SNCF avait dépêché ses gilets rouges, des gilets jaunes, aussi régulateurs de flux, et de la rubalise pour filtrer les accès. Malgré cela, Maria, petite quadra qui part au travail, a carrément peur.
C'est horrible. Moi, je suis petite. Vous voyez tout le monde que vous êtes vraiment coincé dans le wagon, c'est horrible. Le train part dans 8 minutes. Les dames, ils commencent à crier. Les femmes, et ben, les hommes, ils poussent. Même j'ai poussé un monsieur dans l'escalier. J'étais en train de descendre et m'a poussé. Ben, il ne s'est même pas tourné.
Un peu plus d'une heure, j'ai vu 5 femmes faire des malaises. Les agents de la sécurité civile courent partout. Ceux de la sûreté ferroviaire font de la place pour les personnes vulnérables et sortent les quelques hommes qui tentent de faire du forcing. Mais pour certains, il faudrait même des wagons réservés. Ce couple est mitigé sur la question.
Si on commence à sélectionner les wagons pour les hommes, les wagons pour les femmes et les enfants, on ne va jamais s'en sortir. Tout le monde pousse, quoi. Il n'y a pas de homme-femme. Non, c'est une question logique.
Bah, on n'a pas la même force, on ne pousse pas de la même manière.
Oui.
Puis on se met toujours quand même un petit peu en retrait. Quand on voit que ça pousse, on n'y va pas. Sans compter qu'après, on est vraiment en contact près des hommes, c'est pas plaisant.
C'est vrai que là, pour les frotteurs, c'est Noël. Là.
Pour limiter ces dérapages, près de 200 agents sont mobilisés à la Gare du Nord pour gérer les flux.
Et si cette grève des transports était l'occasion de réfléchir à nos modes de déplacement, on en parle sur France Inter dès 18h au 01 45 24 7000 avec parmi les invités de Claire Servageant ce soir l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage. À suivre également au téléphone sonne ensuite la revanche du vélo et des nouvelles mobilités. Allez, on en a dit un mot dès hier à cette même heure. C'est Tahiti qui accueillera les compétitions de surf des JO de Paris à l'été 2024. Énorme défi pour l'île où les épreuves se disputeront au large, au-delà de la barrière de corail. Le président de la Polynésie, Édouard Fritsch, au micro de Mathieu Fontaine.
On m'a posé la question, par exemple, d'une tribune sur l'eau. On nous a posé la question de la tour des juges. Enfin, il y a effectivement une série de questions. Mais ce qui est important, je crois, c'est naturellement, nous avons, nous, un atout qui est extraordinaire. C'est celui de la vague de Taupo. Puis il ne faut pas oublier que le surf est né en Polynésie française. Nous savons parler aux vagues et nous savons comprendre ce qu'une vague exprime lorsqu'elle vous écrase sous l'eau. Ce sport est né chez nous, donc on revient au berceau. Le surf, c'est ici qu'il doit vivre et c'est ici qu'il est né.
Voilà le président de Polynésie qui sait parler aux vagues. C'est la fin de ce journal raccourci pour cause de grève à Radio France. Prochain rendez-vous sur l'antenne Affaires Sensibles, Fabrice Drouel à 15h. Dans un instant, la météo. 12 départements du Sud-Ouest et la Corse sont toujours en vigilance orange au vent violent. Jusqu'à 400 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête la nuit dernière. Une petite moitié l'est encore. De nombreuses routes ont également été coupées par des chutes d'arbres. Des rafales jusqu'à 142 km ont été enregistrées la nuit dernière dans l'Aveyron. La météo.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué. Libre par nature.
Élodie Calac.
Sur le sud-ouest, encore de bonnes pluies, surtout près des Pyrénées. Attention aux inondations et aux vents forts, encore 90 à 110 km à l'heure, parfois 120. Attention aux avalanches sur les Pyrénées, où il neige vers 2000 mètres. Sur la Corse, des pluies soutenues aussi, jusqu'à 130 km à l'heure attendues, davantage sur les caps et le relief. Ailleurs, souvent 70 à 90 km à l'heure, jusqu'à 110 sur le relief. On a quelques éclaircies et toujours un risque d'averse. Elles sont fréquentes sur la façade est, il neige dès 800 mètres. Prudence sur le nord des Alpes, le risque d'avalanche est fort. L'Isère et la Savoie sont en vigilance orange. Et puis on a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest.